Bonjour, je m'appelle Eric Delanne. Dernier album, I Remember Chet. Moi, j'avais l'idée il y a longtemps. Bon, Chet, il est disparu en 88. Et puis j'en ai vu plein d'hommages à Chet qui sont passés. Il y a eu plusieurs CD de plein de personnes. Et donc j'avais ça dans un coin de la tête. Et en fait, le fait qu'on joue l'année dernière en trio dans un club à Paris, rue Jacob, là, et que la formule, il s'est trouvé que c'était hommage à Chet, voilà, on a fait à peu près 6 concerts. Et effectivement, quand Mohamed Ghazly, Beat Jazz, il m'a dit, ah, ça serait bien d'enregistrer ce... Voilà, tout naturellement. En fait, moi j'aurais voulu le faire, j'avais ça dans la tête depuis 15 ans, ça s'est concrétisé l'année dernière, quoi. Bon, moi je suis arrivé à Paris en 77, entre 79 et 88, donc quand il a disparu, il était basé principalement à Paris. Alors, souvent à l'hôtel, des fois chez Michel Graillet, son pianiste. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant une dizaine d'années, on n'arrêtait pas de se croiser, de se côtoyer. Ça a été aussi sur le film de Bertrand Tavernier, Autour de minuit, mais je le connaissais bien avant, je le connaissais depuis à peu près 79. Et chez un copain, chez Aldo Romano, la première fois on s'est croisé là avec Michel Graillet. Et ensuite, au gré des. Alors ça peut être aussi dans des festivals à Istanbul, au Canada, où on se revoyait. C'était toujours par hasard, il n'y avait pas du tout, on se téléphone, c'était pas du tout de cet ordre-là. C'était toujours le hasard qui faisait les rencontres. Petit opportun, il jouait, bon, je passais, allez, viens jouer, tout ça. Ou inversement, je jouais. Et il arrivait, il me demandait à jouer. Moi, je pense que sa conception de la trompette vient de Miles, mais ce que je trouve formidable, c'est qu'il en est sorti et il s'est créé lui-même son propre concept à travers justement le fait d'avoir perdu ses dents. Il a réussi à changer de langage parce que la tessiture, le fait de jouer plus dans le grave, fait évidemment jouer différemment parce que ce n'est pas les mêmes doigtés, etc. Et il a développé comme ça un langage qui est personnel, et surtout, il a le sens du silence, le sens de la phrase, jamais de clichés, jamais de phrases toutes faites, enfin, etc. C'est la grande époque, quoi. C'est ce qu'on a un peu tendance à oublier. Et puis, oui, épuré, enfin, on pourrait dire plein de qualificatifs comme ça. Le début, il est pris avec Charlie Parker lors d'une audition, faut pas oublier, à Los Angeles. Et donc ça le fait connaître, ça le fait complètement décoller, parce qu'il arrive à New York, il joue quand même avec Charlie Parker, c'est pas rien. Et là, nous on a une image de Chet, à moitié endormi, un peu dans les vapes et tout ça, de par ce qu'il prenait, mais là c'est un Chet qui joue très très vite. Et même quand je l'ai connu, il jouait très très vite, beaucoup plus vite que... Enfin c'était hallucinant. Donc une grosse technique, une grosse maîtrise. Alors effectivement, deuxième période où il est plus vendu comme crooner, c'est-à-dire qu'il est chanteur. On le voit beaucoup sur les pochettes avec des femmes et il est très beau, James Dean. Et puis malheureusement, vers 30-35 ans, il rencontre l'héroïne. Et là, à travers un accident, il se fait casser les dents et tout ça. Et on peut dire qu'il y a la troisième période que je préfère, moi, musicalement. On va dire c'est 79-88, quoi. Je me suis dit, bon, quelle est la formule qui me plaisait le plus quand j'écoutais Chet, c'était cette formule qui lui allait le mieux, très sobre, c'est-à-dire guitare, contrebasse, trompette. Alors il y a plusieurs disques comme ça qui sont formidables, avec, je crois que c'est avec Doug Rainey, NHOP, il y a quelques-uns. Et parce que c'est là où il s'exprime le plus, il n'y a pas de batterie, Chet il joue pas fort, il joue dans le micro, il faut pas qu'il y ait de l'espace, il joue beaucoup avec l'espace, etc. Donc j'ai repris cette formule à mon compte. Bon, évidemment, l'idée, c'est de ne pas rejouer Chet Baker et de ne pas essayer de faire comme il joue, même pas d'essayer de s'en inspirer. Mais il faut savoir que tous les trompettistes sont normalement un peu inspirés de Chet Baker, d'Armstrong, de qui on veut, mais aussi un peu de Chet Baker. Donc, voilà. Et puis le répertoire, j'ai choisi non pas... je fais dit Valentine et tout ça, ça aurait été un cliché, mais justement cette période des années 60 où il est crooner. Et j'ai choisi beaucoup de thèmes où il ne faisait pas tellement de solo de trompette, mais il chantait. Et donc je les ai repris à mon compte, mais comme trompettiste, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut voir I'm Fool to Want You, enfin toutes ces balades. Je suis complètement moi-même. Je veux dire que le choix des thèmes peut nous faire aller à jouer un peu en pensant à Chet, mais bon, c'est compliqué parce que... Miles Davis et Chet Baker, ils ont énormément marqué l'histoire de la trompette de par les silences. Et souvent, je vois beaucoup de trompettistes qui croient qu'en faisant un silence, et d'ailleurs, ça marche des fois, hein, en faisant un silence, on va jouer comme Miles. Je crois que c'est pas plus dur que... Bon, on peut s'inspirer, tout ça, mais on est obligé de jouer comme on joue. Et même, j'aurais pu faire ce parti pris de laisser beaucoup de silence et de faire croire que j'allais épurer au-delà de... Eh ben non, je me suis laissé aller, j'ai joué comme je suis, et puis voilà, c'est le meilleur hommage. Un hommage, c'est pas de jouer comme la personne à qui on rend hommage, c'est de jouer comme soi-même. Mais une petite musique intérieure, puisque je joue des thèmes que lui a fait connaître, donc une formule qu'il aimait bien travailler, quoi. Donc Nelson Veras, guitariste brésilien qui est à Paris depuis 20 ans, on s'est rencontrés, je me rappelle, je devais faire quelques dates en Algérie avec Jean-Marie Caille, guitariste, et il ne pouvait pas le faire. Et il me dit, tiens, mais est-ce que tu connais Nelson? Et je dis, je connaissais le nom. Et je lui dis, ça sera l'occasion de se rencontrer. Et on est parti en duo en Algérie. Ce qui était marrant, c'est que c'était après 10 ans d'abstinence culturelle en Algérie, donc... nous deux en duo, c'est quand même pas facile, on jouait en plus la musique de Jobim, et il y avait plus de téléphones portables qui sonnaient dans la salle que de gens qui écoutaient, quoi. Et plus de gens qui parlaient. Mais bon, c'était pas grave, mais on s'est rencontrés dans des conditions un peu extrêmes. Et ce que j'adore chez Nelson, c'est que c'est le seul guitariste qui peut à la fois faire la basse, les accords en accompagner, et faire un contre-champ en même temps. Parce qu'il joue avec ses ongles, et il est assez incroyable, quoi. Donc, c'est naturellement que j'ai pensé à lui pour l'hommage à Chet quand je jouais donc au Caveau des Légendes, rue Jacob à Paris. Et là-dessus s'est greffé Gilda, qui est proche de Nelson, que moi je connaissais de nom évidemment, mais j'aime bien demander aux musiciens avec qui tu te sens bien, avec qui tu as envie de jouer. Par exemple, si on fait ce projet, à quel bassiste tu aimerais jouer? Et ensuite, c'est moi qui décide, mais il me dit, tiens, j'aimerais bien Gilda. Je dis, tiens, c'est l'occasion, je le connaissais, j'avais entendu. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je n'ai même plus, je crois, un disque de Chet parce que à l'époque, on allait au Petit Opportun, une fois qu'on avait joué, et on disait, tiens, j'écouterais bien, je sais pas, Armstrong ou Chet, et il avait tout, Bernard Rabault, le patron. Et c'est peut-être comme ça que j'ai écouté le plus de disques, en fait. J'ai jamais eu tellement chez moi. Bon, quand j'étais plus jeune, évidemment, j'en avais sûrement, hein, beaucoup de vinyles, je sais pas où ils sont. Mais il y en a un qui est très très beau, où il joue Broken Wings, et je crois que c'est avec JF, Jean-François Jenny Clark, Phil Markowitz. Très très beau disque, mais introuvable, parce que ça, j'ai essayé de le trouver, j'ai pas réussi à le trouver. Et donc ces formules avec Doug Rainey en trio, je crois que c'est NHOP, puis il y en a avec un autre bassiste. Il y a plein de disques formidables. Hein. Alors, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure aussi, Chet n'a pas forcément eu des castings de rêve tout le temps. C'est qu'il a eu les castings de rêve pour faire les disques, parce qu'il y avait des producteurs qui pouvaient payer les musiciens. Mais bon, des disques live, par exemple, on n'en trouve pas, pratiquement pas, puisque en live, c'était pas forcément les meilleurs castings. C'est pas pour dire. Bon, ça pouvait être très bien. Les amis qui ont joué avec lui, ils jouent très bien. Michel Graillet, Ricardo, JF, évidemment, tout ça. Mais donc. Et puis le live, c'était plein de surprises. Ça dépendait un peu. Bon, c'était Chet Baker. C'était assez imprévisible. Mais bon, la majorité des fois, c'était quand même le summum de la beauté. Enfin, je me rappelle encore. Qui jouait au petit opportun, un petit club à Paris de 40 places, c'était quand même assez formidable.